Il est entendu que je fais aujourd'hui les recalés du Panthéon. Mais malgré tout, je voulais faire un petit rappel sur quelques panthéonisations pour qu'on ne tombe pas directement dans les recalés, mais qu'on ait quand même quelques lauréats en apéritif, en quelque sorte. Alors, je vous donne juste quelques informations rapides sur ces panthéonisations. Le Panthéon, c'est la nouvelle église Sainte-Geneviève voulue par Louis XV, qui a été transformée en Panthéon en 1791 au moment de la mort de Mirabeau. Puis il y a eu quelques panthéonisations sous la Révolution française, Voltaire, Rousseau, Marat, Lepelletier, Saint-Fargeau, Dampierre, etc. Ensuite, le gros des panthéonisations, et ça reste le cas actuellement, c'est le Premier Empire. Le Premier Empire avec beaucoup de militaires dedans, deux ou trois ecclésiastiques, des légistes, des politiques, mais beaucoup, beaucoup de militaires. Et au total, ça fait 43 panthéonisés sous l'Empire. Le Premier Empire a gardé le Panthéon partiellement, a gardé la crypte comme lieu de panthéonisation, donc qui allait dans la crypte, mais qui, à ma connaissance, n'avait pas les grandes cérémonies comme on avait fait sous la Révolution française ou comme on a fait ultérieurement. Disons que la crypte du Panthéon était, si on peut dire les choses de manière un peu impropre, un lieu d'inhumation pour les gens à qui on voulait rendre de grands honneurs. Après le Premier Empire, qui avait donc gardé la crypte comme lieu de panthéonisation, mais rendu l'église au niveau du sol au culte, la Restauration fait rebasculer l'ensemble du Panthéon du côté du culte catholique, église de niveau et crypte souterraine, d'où on sort Voltaire et Rousseau, non pas pour les jeter à l'égout comme parfois on l'a écrit, mais il y a des avis différents. J'ai lu qu'on les avait reculés dans le coin le plus angulaire, on va dire, de la crypte, ou plutôt, et je crois que c'est ça qui est vrai, on a ramené leur tombe dans le narthex, c'est-à-dire entre les colonnes et les grandes portes du Panthéon. Donc ils étaient à la fois dedans, dehors, si vous voulez. En tous les cas, ils n'étaient pas dans la partie sacrée de l'édifice. La monarchie de Juillet rend l'église au Panthéon. Donc l'édifice redevient laïque, mais ne panthéonise personne. On en parlera. Seconde République, pareil. Le Second Empire refait basculer vers le culte catholique avec de grandes solennités. D'ailleurs, il y a un chapitre de Génovevin qui est créé à la basilique Sainte-Geneviève devient basilique, il y a un chapitre de Génovevin, et puis, comme tout le monde le sait, c'est à partir de la mort de Victor Hugo que l'église Sainte-Geneviève redevient Panthéon et n'a pas bougé depuis. Alors, je voulais simplement vous rappeler quelques grandes panthéonisations parmi les plus récentes, enfin c'est quand même un récent qui remonte à un siècle, ouais. Puisque là j'ai mis Jean Jaurès. Il faut bien vous dire qu'entre les dernières panthéonisations de l'Empire et du Premier Empire, je veux dire, et 1885, il n'y a eu aucune panthéonisation, hein, puisque ni la monarchie de Juillet, ni la Seconde République n'ont panthéonisé. Et donc, l'Empire a 43 panthéonisations, et toutes les républiques ensemble en ont 42 ou 43. J'ai un doute, dans mes additions, une fois je trouve 42, une fois 43, j'ai pas trouvé l'erreur. Enfin, en gros, ça se tient. Les cinq républiques ne panthéonisent pas plus que l'Empire tout seul. Mais c'est pas le même type de gens que l'on panthéonise. Je ne suis pas remontée à Victor Hugo. J'ai repris quelques panthéonisations plus récentes. Et en même temps que je vous montre quelques cérémonies de panthéonisation, je vais vous montrer, et à la fin de la communication, enfin de la conférence, vous comprendrez pourquoi, je vais vous montrer les tombes des gens panthéonisés, les tombes restées là où ils étaient. Parce que si la panthéonisation a lieu immédiatement au moment de la mort, donc funérailles nationales plus panthéonisation, il n'y a pas de tombe ailleurs qu'au Panthéon. Mais si la panthéonisation arrive plusieurs années, voire plusieurs décennies, après la mort, forcément il y avait une sépulture quelque part, on retire le corps et cette sépulture devient un cénotaphe. Et ce matin justement, j'étais dans le cadre d'une cérémonie sur la tombe de Berlioz pour le bicentenaire de sa naissance, on a vu précisément le cénotaphe d'Émile Zola au cimetière Montmartre. Et donc, comme Zola a été panthéonisé en 1908, en juin 1908, la tombe qui est à Montmartre maintenant est un cénotaphe. Parmi les panthéonisations que j'ai retenues, il y a celle de Jaurès en novembre 1924, en partie parce que j'aime bien Jaurès, donc qui a été panthéonisé un petit peu plus de 10 ans après son assassinat, hein, puisqu'il a été assassiné le 31 juillet 14, mais aussi parce que c'est une cérémonie très particulière comme panthéonisation, puisqu'au lieu d'avoir tous les grands flafla, j'allais dire, de la République, on a un cortège composé uniquement de mineurs venus de Carmaux et venus en habit de travail, avec leurs chapeaux, leurs vestes. Et vous voyez, là, il y a un homme sur la droite, là, qui tient les lampes de mineurs. Le cercueil de Jaurès avait été posé sur un immense catafalque qui faisait 7 mètres de long, je ne sais plus combien, je crois que c'était 7 mètres de long. Donc il était arrivé d'Albi la veille, puisqu'il avait été enterré à Albi, dans ses terres natales. Il avait fait une halte la veille au soir à l'Assemblée nationale. Et le matin, donc, on l'emmène au Panthéon avec ce catafalque qui est tiré par les mineurs. On est en novembre, il y a un brouillard assez terrible. Et après, voilà. Donc, je vous dirai à la fin pourquoi je vous montre en même temps les tombes devenues cénotaphes qui restent dans les cimetières d'origine. Donc voilà, l'ancienne sépulture de Jean Jaurès dans le cimetière d'Albi. Et voilà les plaques de bronze gravées qui sont restées sur sa tombe, qui sont toutes les deux très intéressantes. Dans ce monument édifié par la ville d'Albi, a été déposé jusqu'au 21 novembre 1924 le corps de Jean Jaurès, inhumé à Albi au lendemain de son assassinat, 31 juillet 1914. Et à côté, ce mausolée demeure pour attester la fidélité d'une grande pensée au pays albigeois et l'attachement de ses habitants à une chère mémoire. Les habitants d'Albi n'ont pas été très contents quand on est venu prendre le corps de Jaurès pour l'emmener à Paris. Et la petite histoire, c'est apocryphe ou c'est vrai, on raconte que dans les années 90, quelque chose comme ça, Jean Jaurès avait visité le Panthéon avec Aristide Briand, et qu'en sortant, il aurait dit à Briand « Quel sinistre endroit, pour rien au monde, je voudrais être enterré là-dedans. » Voilà. Et donc, dessous, vous avez le caveau de Jean Jaurès, que vous pouvez comparer avec le cénotaphe du cimetière d'Albi. Là, j'ai pris les caveaux de Victor Hugo, Alexandre Dumas et Émile Zola, dont le cénotaphe, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, se trouve au cimetière Montmartre. Et Alexandre Dumas, il a sa tombe, là aussi devenue cénotaphe, dans le cimetière de Villers-Cotterêts. Et donc, j'avais plusieurs photographies de la tombe avant la panthéonisation et de la tombe après panthéonisation, où vous avez l'inscription « Repose depuis le 30 novembre 2002 au Panthéon à Paris ». Mais quand on est venu chercher à Villers-Cotterêts le corps d'Alexandre Dumas, la population était furieuse, il y a eu des manifestations. Il y avait même eu, paraît-il, à l'entrée de la ville, des grands panneaux « Personne n'entre dans Villers-Cotterêts », enfin quelque chose comme ça. Et la municipalité, d'après ce que j'ai lu, a fini par donner son accord pour que le corps d'Alexandre Dumas s'en aille, à condition qu'on restaure sa statue qui se trouve à Villers-Cotterêts et qui était dans un très mauvais état. Donc, l'État a pris en charge la restauration de la statue. Et à Montmartre ce matin, j'ai vu la tombe d'Alexandre Dumas fils. Il y avait aussi une tombe d'Alexandre Dumas père du père, le général de l'Empire, qui a été refondu sous Vichy. Et à Montmartre, moi je vous conseille d'aller vous promener à Montmartre, la très belle tombe à Montmartre. Alexandre Dumas a un gisant de marbre sous un baldaquin, une tombe beaucoup plus considérable que la tombe qu'avait son père. Alors là, c'est la cérémonie de panthéonisation de Maurice Genevoix. Alors Maurice Genevoix, en 2020, donc voilà l'arrivée au Panthéon, bon, avec le portrait de Genevoix quand il était jeune officier, le tricolore de rigueur. Et voilà la tombe de Maurice Genevoix, un relief qui ressemble à un masque mortuaire sur sa tombe au cimetière de Passy. Alors, j'ai voulu mettre aussi cette tombe-là, Geneviève Antonioz de Gaulle, c'est en 2015, en même temps que Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay, donc quatre résistants. Et j'ai découvert, en travaillant pour cette petite introduction, donc la sépulture de Geneviève de Gaulle Antonioz à Bosset, en Savoie. Comme vous le savez, donc, c'était une résistance. Son mari aussi était résistant. Alors, il y a des cas où, quand on ne voulait pas séparer le couple, on faisait entrer, comme on a fait avec Sophie Marcelin-Berthelot. Sophie est rentrée en même temps que Marcelin. Quand on a panthéonisé Simone Veil, Antoine est rentré en même temps que Simone. Enfin bref, des choses de ce genre. Là, Bernard Antonioz restait à Bosset. Geneviève Antonioz de Gaulle était panthéonisée, mais elle a été panthéonisée sans corps. Parce que depuis quelques années, maintenant, on panthéonise sans le corps. Je vous reparlerai de tout ça. Donc c'est une panthéonisation virtuelle, mais effective, parce qu'il y a bien eu une décision du président de la République. Joséphine Baker a aussi été panthéonisée sans corps. Voilà la tombe de Joséphine Baker, où le corps se trouve toujours, à Monaco, puisqu'après la vente du château des Milandes, elle a été recueillie par la princesse de Grâce de Monaco, qui l'a fait venir pour l'héberger, en quelque sorte, puisqu'elle se trouvait en sans plus rien. Donc son corps est toujours là-bas, mais son âme, si je puis dire, est au Panthéon. Puis alors, je vous ai mis la tombe de Louis Braille pour une question intéressante. Là, on est dans le cimetière de Couvray. Couvray, je ne sais pas comment on dit, c'est C-O-U-P-V-R-A-Y, en Seine-et-Marne. Et figurez-vous qu'il est au Panthéon, donc depuis 1952, moins ses mains. La commune a accepté qu'il parte, mais à condition que ses mains... Il y a des corps qui ne sont pas entiers. Pour Gambetta, il n'y a que le cœur. Il y a deux autres personnes pour lesquelles il n'y a que le cœur. Alors lui, ce qui est quand même très particulier... Bon, on ne lui a pas coupé les mains. Il avait été enterré belle lurette avant, donc le corps était desséché. Il était facile de prendre le squelette en laissant les os des mains dans la tombe. Et... Alors après, on va repartir là sur les recalés. La conférence d'aujourd'hui sur les recalés du Panthéon. Je commence à dire qu'une fois qu'on est recalé, on n'est pas recalé ad vitam aeternam. La preuve, Missak Manouchian. Parce que Missak Manouchian, on demandait sa panthéonisation depuis au moins 10 ans. Donc, quand j'ai rédigé le premier papier sur les recalés du Panthéon, Missak Manouchian était dans les recalés du Panthéon. Et puis, brusquement, il est sorti de la liste des recalés. Donc, ce qui fait qu'en réalité, mais je n'ai pas trouvé le bon terme, il y a les recalés et ceux qui sont en attente. Il y en a, ils attendent depuis tellement longtemps, on a dit non tellement souvent qu'on se dit là pour eux, les carottes sont cuites, ils n'y entreront plus jamais. On peut les considérer comme recalés définitivement. Mais il y en a d'autres, qui sait, peut-être que, puisque ça s'est fait pour Manouchian, ça se fera aussi peut-être pour d'autres. Je me disais que si, à partir d'une enquête qui a été réalisée en 2014 par un organisme donc, de sondage, le Crédoc, 73% des Français connaissent le Panthéon et ses grandes missions. Ils donnent des références à Jean Moulin, à Victor Hugo, à des politiques, à des militaires, mais il n'y a pas beaucoup de noms qui sont cités. Donc, je me disais, si on ne connaît pas ceux qui sont au Panthéon, a fortiori, on ne connaît pas ceux qui sont recalés ou qui sont toujours en train de piaffer à la porte. Donc, actuellement, depuis Missak Manouchian et sa femme, Mélinée, ça fait 83 personnes au Panthéon. Mais sur ces 83 personnes, il y en a qui ne sont pas à titre panthéonisé par elles-mêmes, mais ceux, donc comme je l'ai dit pour Sophie Berthelot, ou pour Antoine Veil, ou pour le père de Victor Schœlcher. Quand on a panthéonisé Victor Schœlcher en 1949, comme le père et le fils étaient dans la même tombe, ils avaient été très proches dans la vie, ils avaient passé une grande partie de leur vie ensemble, on a décidé qu'on ne pouvait pas séparer le père du fils, et donc le père de Schœlcher, Marc Schœlcher, est aussi dans la tombe. Mais Est-ce qu'il y a seulement 83 panthéonisés ou est-ce qu'il y en a plus ? Philippe Bellaval, qui a été président du Centre des Monuments Nationaux, dans un rapport qu'il a remis au président Hollande, donc après 2012, je crois que c'était en 2013, disait qu'il n'y avait pas qu'une seule forme de panthéonisation. Il y a la panthéonisation solennelle, avec la grande remontée de la rue Soufflot, avec la grande cérémonie d'entrée. Mais au Panthéon, il y a également des plaques qui sont apposées sur les murs. Par exemple, il y a une immense plaque avec tous les écrivains morts pour la France en 14-18. Il y a une plaque pour Saint-Exupéry. Il y a beaucoup de plaques qui sont... Il y a une plaque pour tous les morts des révolutions de 1830-1848. Donc, il disait, tous ceux dont le nom figure sur les plaques, soit de manière directe, parce que le patronyme est marqué, soit indirect, parce qu'ils sont pris dans un collectif, on peut considérer qu'ils sont panthéonisés, qu'ils appartiennent à la catégorie des grands hommes, et puis il y a ceux qui sont représentés par une statue. Donc, bien sûr, tous les Français ne peuvent pas donner le nom de tous ces panthéonisés, version solennelle, ou a fortiori, version plaque, ou version a fortiori, pour les recalés et les en attente, les gens ne savent pas. Quand je dis les gens, ça comprend les historiens. Si on n'a pas travaillé sur les recalés du Panthéon, on ne les connaît pas. Donc, j'avais le choix, ou un choix purement nominal et thématique, en quelque sorte, c'est-à-dire que je prenais les recalés et les en attente, et puis je les voyais un par un, parce qu'il y en a pour qui on a fait une demande à telle décennie, puis 20 ans plus tard, puis 30 ans plus tard. Donc, soit je suivais les noms, soit je suivais au fil des régimes politiques, et j'ai préféré suivre par le fil des régimes politiques. Donc, j'ai commencé par la période qui va de la Révolution à la fin du Second Empire. Entre les panthéonisations de Voltaire et de Rousseau, il y a eu l'affaire de la panthéonisation de Descartes. Alors, Descartes est un cas très intéressant. Il n'est pas au Panthéon. Il est toujours dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Après une demande qui a été formulée par son petit-neveu en 1791, donc sous la Constituante, la Convention a décidé de le panthéoniser le 2 octobre 1793. La Convention ordonne que le corps de ce philosophe serait transféré au Panthéon français, après un rapport de Marie-Joseph Chénier. Et ce décret est pris dans l'enthousiasme général. Alors, tout d'abord différé, bon, la Révolution, comme vous le savez, est une période un petit peu agitée, donc c'est comme Barra et Viala, on a décidé de les panthéoniser, mais leur corps n'a jamais été amené au Panthéon. Donc le corps de Descartes n'y est pas. Donc en 96, on se dit, ah, mais Descartes n'est toujours pas au Panthéon. Donc, à la demande du Conseil des 500, donc on est sous le directoire, il y a une demande pour que cette panthéonisation décidée 3 ans plus tôt se passe de manière effective. On entend de nouveau un rapport, et alors là-dessus se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Louis-Sébastien Mercier, que l'on connaît pour ses travaux sur Paris, prononce le 7 mai un discours très violent contre Descartes. Je vais vous dire, Descartes a retardé visiblement les progrès de la nation par la longue tyrannie de ses erreurs en métaphysique comme en science. Et tout le long discours de Louis-Sébastien Mercier est de cette eau-là. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en 1762, l'Académie française avait mis au concours un éloge de Descartes que Louis-Sébastien Mercier avait concouru. On peut lire à la Bibliothèque nationale son éloge de Descartes de 1762, qui regorge de compliments. Il n'a pas été déclaré lauréat, on a ignoré son éloge. Donc, des gens s'interrogent sur les raisons de son revirement entre 62 et 96. Est-ce que c'est un revirement idéologique ? Il y a un philosophe qui suppose, Bernard Bourgeois, qui dit « On pourrait peut-être supposer que c'est par rancœur que son éloge de 1762 n'ait pas été accepté. Il aurait décidé de se venger sur ce pauvre Descartes lui-même. » Bref, Descartes n'est toujours pas au Panthéon, mais on va le voir réapparaître, bien qu'il y ait eu une mesure prise. voulu par Robespierre, la panthéonisation de Barras et de Viala fut décidée par les décrets du 18 Floréal et du 17 Prairial en 2, donc en 1794, indéfiniment différée. Elle aurait dû se produire à peu près au moment où il y a eu le Neuf Thermidor. Vous imaginez bien qu'après le Neuf Thermidor, deux panthéonisations demandées par Robespierre avaient très très peu de chances d'aboutir. Donc ces deux enfants adolescents n'ont pas été transférés au Panthéon, mais le décret avait bien été pris. Donc c'est comme Descartes. Je ne sais pas très bien comment il faut les considérer. Panthéonisés ou pas panthéonisés? Ils sont dans une espèce d'entre-deux. Je ne sais pas comment il faut les considérer. Alors, quand vous entrez dans le Panthéon, vous avez le chœur, et sur la droite du chœur, avec un grand monument à la Convention nationale, et sur la droite du chœur, vous avez un groupe de soldats. Et en tête du groupe de soldats, vous avez deux petits tambours. Après tout, on peut imaginer que les deux petits tambours sont la représentation sculptée de Barras et de Viala. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si Viala était un tambour, Barras, lui, n'était pas un tambour. Et il n'a pas été tué comme Viala en battant la charge. On lui avait demandé de garder des chevaux dans une escarmouche en Vendée, et c'est là que des bleus seraient arrivés, lui auraient intimé l'ordre de crier « Vive la République !» Il a crié « Vive le roi !» et il a été abattu. Mais enfin, tout ça, c'est des récits qui ont été faits après coup, on ne sait pas exactement. Mais il n'en demeure pas moins que dans la légende et dans certains récits, Barras est lui aussi présenté comme un tambour, ce qui n'était pas le cas. Donc l'idée que les deux tambours peuvent représenter les deux enfants n'est qu'à moitié fausse. Donc, Premier Empire, dont je ne reparle pas, et puis la Restauration, où je vous ai dit, il y a une seule personne qui rentre au Panthéon, c'est Soufflot, mais pas en tant que panthéonisé, en tant que mort, qu'on enterre dans la crypte de l'église dont il avait dessiné les plans et qu'il avait contribué à édifier, puisqu'il était le maître d'œuvre, l'architecte de Sainte-Geneviève, et donc il n'y a pas eu de cérémonie de panthéonisation. Et si on l'a amené ce qui était redevenu l'église Sainte-Geneviève, c'est parce que quand Soufflot avait été choisi pour être l'architecte, il avait bien été dit qu'après sa mort, lui-même serait inhumé au Panthéon. Donc on n'a fait que respecter le souhait qu'il avait exprimé et l'engagement qui avait été pris. Donc arrive la monarchie de Juillet. Je vous ai dit, la monarchie de Juillet ne panthéonise pas, bien qu'elle ait refait de l'église Sainte-Geneviève un temple laïque qu'elle a appelé le temple de la gloire. Pas de panthéonisation, mais une demande. J'en connais une, il y en a peut-être eu d'autres, je n'en connais qu'une. En novembre 1831, la Chambre des Pairs a examiné une pétition qui datait du 20 août 1830 et qui émanait des habitants de la Moselle, qui était le département natal du maréchal Ney. Le maréchal Ney, comme vous le savez, après 1814, s'était rallié à Louis XVIII. Il y a les 100 jours. On l'envoie pour combattre Napoléon et ses troupes et il se rallie à Napoléon. Donc on peut considérer qu'il y a un double revirement. Et puis, après Waterloo, où il a combattu, il est arrêté, il est emprisonné, il est jugé, il est condamné à mort et il est fusillé là où vous avez sa statue actuellement, près de la station de métro de l'Observatoire, au croisement du boulevard de Port-Royal et du boulevard Saint-Michel, où il y a une très belle statue du maréchal Ney, sabre au clair, qui est une statue du sculpteur François Rude. Donc, une panthéonisation demandée au début de la monarchie de Juillet, mais qui ne débouche sur rien. La Chambre des Pairs après, ne donne pas satisfaction aux gens qui ont pétitionné, bien que le vœu ait été appuyé par le général Lamarque, demandant qu'un décret solennel lui ouvre les portes du Panthéon et absolve la France d'un jugement inique. La pétition fut renvoyée au Conseil des ministres, alors présidé par Casimir Perier, qui incarnait à ce moment-là, on était encore à un moment où il y avait une querelle entre le parti de l'ordre et le parti du mouvement, Casimir Perier contre Lafitte incarnait le parti de l'ordre, et il y avait très peu de chances pour que la panthéonisation de Ney aboutisse effectivement. Alors, on a une deuxième demande de panthéonisation qui arrive quelques années après et qui donne donc naissance à un autre Recalais. Donc la Deuxième République, comme je vous l'ai dit, a relaïcisé le, enfin, garde la laïcisation du Panthéon sous le nom de Temple de l'Humanité et non pas de Temple de la Gloire. Et très tôt, le 2 mars 1848, donc on est vraiment quelques jours après la révolution du 24 février, est organisée sur la tombe d'Armand Carrel. Là, on est au cimetière de Saint-Mandé. C'est une statue de David d'Angers. Armand Carrel, qui était un très grand républicain, est mort en duel contre Eugène de Girardin. Je crois que c'était en 1842, je ne suis pas certaine. 36, Carrel, oui. D'accord. Il y a une grande cérémonie qui est organisée sur sa tombe. Oui. Et là, un des membres du gouvernement provisoire, dont la tombe est à Montmartre, je l'ai vu ce matin, Armand Marat, M-A-2-R-A-S-T, demande la panthéonisation d'Armand Carrel. L'hommage que nous venons rendre aujourd'hui à la mémoire d'Armand Carrel devrait être plus complet. Nous aurions voulu pouvoir transporter sa statue et ses cendres. Donc ils auraient voulu emmener les deux au Panthéon. Mais le gouvernement provisoire, occupé des grands travaux qu'il doit mener à fin, n'a pas eu le temps de faire les préparatifs d'une solennité que l'on ne doit considérer que comme ajournée. Donc en 1948, Armand Marat est persuadé que la panthéonisation d'Armand Carrel... Et alors, quand on a fait cette cérémonie sur sa tombe, l'homme qu'il avait tué en duel, le grand journaliste, le grand patron de Girardin, était là, à la demande des amis de Carrel, d'ailleurs, qui lui avaient demandé de venir là. Et Girardin a pris la parole et a demandé pardon d'une certaine manière, mais enfin... Ça aurait pu être l'inverse, hein. Ça aurait pu être Carrel qui l'aurait tué et a demandé qu'on transforme de manière beaucoup plus sévère la législation et que le duel devienne vraiment impossible pour qu'il n'y ait plus de mort pareille. Donc, le Panthéon redevient sous le Second Empire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'église Sainte-Geneviève. Donc là, bien sûr, il n'est pas question de panthéonisation. Il n'en est pas question non plus dans les 10 premières années de la Troisième République, donc entre 70 et 80, puisque dans les premières années de la Troisième République, après l'écrasement de la Commune notamment, en mai 1871, on a une République qui est une République conservatrice, hein, comme a dit Thiers, la République sera conservatrice ou ne sera pas. On a la République des ducs, avec les ducs de Breuil et tout. On a la République de l'ordre moral, avec le maréchal de Mac-Mahon comme président de la République, qui parle de l'ordre moral qu'il faut rendre à la France. Et la République devient ce qu'on a appelé la République aux républicains, progressivement à partir de 1876. Il y a les lois constitutionnelles de 1875, où le mot de République enfin apparaît dans une des lois constitutionnelles. Il y a les élections de 1876, où à la Chambre, il y a une majorité de républicains. En 1877, le président Mac-Mahon dissout la Chambre avec l'accord du Sénat. Il y a de nouvelles élections au mois d'octobre avec de nouveau une majorité républicaine. Et à partir de là, toutes les élections locales, que ce soit municipales, cantonales, en 1879, un renouvellement du tiers du Sénat. À chaque fois, c'est les républicains qui gagnent jusqu'au moment où, à la fin du mois de janvier 1879, Mac-Mahon obéit à ce que Gambetta lui avait dit quelques années plus tôt, il faudra se soumettre ou se démettre. Il ne s'est pas démis en 77, mais en 79, il comprend que ce n'est plus possible, il donne sa démission, et c'est Jules Grévy qui est élu, suffrage universel indirect bien sûr, président de la République, et c'est à partir de là que vraiment on parle de la République aux républicains ou de la République des républicains. Donc avant, il n'était pas question de s'occuper de l'église Sainte-Geneviève. Et la transformation se fait de nouveau avec la mort de Victor Hugo. Et donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'avec Victor Hugo, on a en miroir ce qui s'est passé en 91 avec Mirabeau. C'est la mort de Mirabeau qui a amené la transformation de la nouvelle église Sainte-Geneviève non encore consacrée en Panthéon. Et c'est la mort de Victor Hugo qui ramène le retour au temple laïque en 1885, le décret du 27 mai 1885. Alors, à partir de là, on va avoir des panthéonisés, mais on va aussi avoir des recalés. Alors, il y a un cas parmi les recalés qui n'est pas vraiment recalé, mais qui n'est pas non plus au Panthéon, c'est Lazare Hoche. La statue de Lazare Hoche par Jules Dalloux. Lazare Hoche aurait dû être panthéonisé au moment du premier centenaire de la République française en 1889. Il devait être panthéonisé en même temps que Lazare Carnot, que le général Marceau et qu'Alphonse Baudin. Et il aurait été le quatrième. Mais la famille de Hoche avait, si je puis dire, viré de bord. Son petit-fils, marquis de quelque chose, était monarchiste. Et pour lui, il faisait partie des gens pour qui la République était quelque chose assimilable à la gueuse. Et en outre, d'après ce que j'ai lu, mais ça me paraît un peu étrange, ce marquis, petit-fils de Lazare Hoche, ne voulait pas que son grand-père se trouve en même temps que Carnot. Parce que Lazare Hoche a été arrêté un temps sous la Révolution et l'ordre d'arrestation était signé de Lazare Carnot, le grand organisateur de la victoire, etc. etc. Et l'ordre d'arrestation et d'emprisonnement pour manque à quelque chose sur le champ de bataille avait été signé par Carnot. Mais ensuite, quand Hoche a été libéré, qu'on s'est rendu compte que les accusations n'étaient pas fondées, etc., l'ordre de libération, il est aussi signé Lazare Carnot. Enfin bref, le petit-fils s'oppose à la panthéonisation de son grand-père. Donc Lazare Hoche ne rentre pas au Panthéon et au dernier moment, dans les dernières discussions avant que le décret ne soit pris, on remplace Hoche par la Tour d'Auvergne. Et c'est comme ça que la Tour d'Auvergne est rentrée au Panthéon en 89. Donc on a Hoche que les Républicains auraient bien voulu panthéoniser. Il ne l'a jamais été officiellement. Son nom était dans un projet de décret, mais non pas dans le décret pris, mais il a sa statue au Panthéon. Et Philippe Bélaval dit il y a plusieurs types de panthéonisation. Et quand il y a le nom sur une plaque ou quand il y a une statue, on peut considérer que la personne est panthéonisée. Donc, comment faut-il considérer Lazare Hoche? Je ne sais pas très très bien. Donc, je vous passe sur les panthéonisations effectives, hein, toutes celles qui ont eu lieu. Et on arrive à d'autres recalés à partir de 1892, au moment de la mort de Renan. Quand Renan mort, tout le monde dans les milieux intellectuels, politiques, etc., est persuadé qu'il va y avoir des funérailles nationales suivies d'une panthéonisation. Mais pour qu'il y ait une panthéonisation après les funérailles nationales, il faut un décret. Or, Renan a eu la très mauvaise idée de mourir pendant l'été, quand ses chambres étaient en vacances. Donc, elles n'ont pas pu prendre de décret. Donc, il n'a pas pu être panthéonisé sur le moment même. Donc, il a bien eu les funérailles nationales, mais on a déposé son corps au cimetière Montmartre, dans la chapelle de son gendre, la famille Schaeffer, puisqu'il avait sa fille était mariée à Harry Schaeffer. Donc, il y a la chapelle Schaeffer et il y a une petite plaque qui dit que le corps d'Ernest Renan, mais quand il a été mis là, tout le monde pensait que c'était provisoire et qu'il n'allait pas tarder à partir au Panthéon. Mais pas du tout, ça ne s'est jamais fait. Quand la demande a été introduite, elle a été introduite avec celle de deux autres personnes, Jules Michelet, Edgar Quinet. Il y a eu un projet de loi en 1892, donc une fois que les chambres étaient rentrées, trois propositions de loi en 1899, 1902 et 1923. Alors, ce qui a un peu compliqué les choses, c'est lorsque le projet de 92 a été connu, c'est un projet déposé par Léon Bourgeois, qui était président du Conseil, et Maurice Rouvier, qui devait être aux finances, je crois, à l'époque. Athanaïs Mialaret, la veuve de Michelet, incarnation de la veuve abusive. Vraiment. Donc, Athanaïs Mialaret se montre hostile. D'après elle, son mari devait rester au Père-Lachaise où il aimait se promener et méditer. Il fut donc décidé d'ajourner la décision relative à l'historien, mais le texte contenant les trois noms fut néanmoins distribué aux députés. Il n'aboutit pas, pas de vote. Pas plus que la proposition de 99, signée de François de Mailly, un parlementaire de La Réunion, pas plus que celle de Maurice Puybat en 1902. combattue par Gabriel Monod, gardien de la mémoire de Gilles Michelet et des volontés de sa femme. Cela dit, Athanaïs Mialaret s'est quand même débrouillé pour faire dans ces années-là une cérémonie absolument extraordinaire à la gloire de Michelet au Panthéon, mais sans qu'il y ait le nom de Quinet ni celui de Renan. Tiens, voilà la chapelle Schaeffer avec la plaque de Renan ici au cimetière Montmartre. Et voilà le tombeau de Michelet au Père-Lachaise, qui est un tombeau absolument extraordinaire. Hein. Donc, comme vous le voyez, Michelet couché donc sur ce qui ressemble à un cercueil, et il y a une allégorie féminine qui lui montre le ciel. Donc, Athanaïs Mialaret a eu ce qu'elle voulait. Michelet est resté avec son splendide monument au Père-Lachaise. Il a bien eu son intronisation au Panthéon avec cette grande cérémonie, mais les deux rivaux, là, les petits dont elle ne voulait pas entendre parler, Renan et Quinet, pouf, voilà. Donc, c'est vraiment la veuve abusive. Alors, il y a encore une autre proposition pour ces trois-là. Le 23 mars 1923, sénateur François Albert, donc adopté par la Chambre haute, en dépit de la très forte opposition de sénateurs de droite, l'un d'eux, c'était Dominique Delahaye, qui dit que ces trois hommes étaient trois malfaiteurs, qui n'ont pas leur place au Panthéon. Et voilà. Ça, c'est la tombe de Quinet, qui est au cimetière Montparnasse. Vous voyez bien les tombes de ceux qui n'ont pas été panthéonisés et dont le corps est toujours là. À une des demandes, on avait joint, donc c'est François de Mailly et Maurice Cuda, qui avait joint le nom de Balzac. Et voilà la tombe de Balzac avec son buste. Et Balzac, dont la panthéonisation pour lui tout seul avait aussi été demandée, ça m'a étonné d'ailleurs, en mai 1899, tout un ensemble de députés socialistes, emmenés par Eugène Fourrière et Pascal Grousset, avaient demandé que Balzac soit panthéonisé. Donc sur le coup, on se dit, mais comment se fait-il ? Balzac était un homme de droite, on le sait bien. Et en fait, c'est à cause de la comédie humaine, parce que Balzac avait été capable de rendre compte de tous les types et de tous les modes de vie. C'était un sociologue extraordinaire, d'une certaine manière, Balzac. Alors, à la même date, le député radical du Jardin Baumetz, qui a été longtemps secrétaire d'État aux Beaux-Arts, demande le transfert au Panthéon des restes de Rude, de David d'Angers, donc Rude, sculpteur, David d'Angers, sculpteur, peintre, Delacroix, peintre, et Berlioz, musicien. Initiative, je dis, qui, si elle avait réussi, aurait donné au Panthéon une dimension artistique qui demeure uniquement symbolisée par la présence d'un seul panthéonisé, le peintre Joseph-Marie Vien. Il n'y a aucun artiste au Panthéon. Il y a peu de savants, il y a beaucoup de militaires, beaucoup de politiques. Vous pensez qu'il y a plus d'ecclésiastiques au Panthéon qu'il n'y a d'artistes, puisque sous l'Empire, il y avait trois ecclésiastiques. Ah, il y en a plus, dans le fond, il y a l'abbé Grégoire qui a été panthéonisé en 1989. Donc il y a même quatre ecclésiastiques au Panthéon et un seul peintre, Joseph-Marie Vien, qui a été panthéonisé donc sous Napoléon en 1809. Alors là, Berlioz est mentionné à côté des sculpteurs. Quatre ans plus tard, le 17 août 1903, lors de fêtes célébrées à Grenoble à la mémoire de Berlioz, un musicologue, Julien Thiersault, souhaita l'entrée triomphale de Berlioz dans le temple élevé aux grands hommes par la patrie reconnaissante. Alors, s'en suivit la première d'une longue série de déconvenues quant au destin posthume de l'auteur de la symphonie fantastique, plusieurs fois des demandes de panthéonisation de Berlioz, il y en a au moins une qui a failli réussir, et puis finalement capoter. Alors, la panthéonisation de Diderot, un philosophe, la panthéonisation de Diderot, fit l'objet d'une proposition de loi déposée le 10 avril 1900 par plusieurs socialistes. Là, ça se comprend davantage. On retrouve Pascal Grousset, Viviani, qui a été président du Conseil, Vaillant, qui était un député d'extrême-gauche, qui était un blanquiste originellement, donc qui demande la panthéonisation de Diderot. Pour eux, le corps du fondateur de l'encyclopédie devait être retiré de la crypte de l'église Saint-Roch, où il se trouve, car une telle sépulture convient mal au grand adversaire de tous les cultes, au grand précurseur de la Révolution française. Sa place est au Panthéon, auprès de Voltaire, dit le rapport. La proposition fut renvoyée à une commission ad hoc, autant dire qu'elle s'enlisa dans les sables parlementaires et qu'on n'en parla plus à ce moment-là. Mais en 1913, on a édifié au sein du Panthéon un monument à la gloire de l'encyclopédie, donc il y a la vérité, la force, enfin des statues allégoriques, et puis sur le petit édicule qui est au pied de ce monument à la gloire de l'encyclopédie, vous avez le profil de Diderot. Donc là encore, si on pense à Philippe Bélaval et à ce qu'il dit sur les différents types de panthéonisation, on peut considérer que Diderot est au Panthéon sans qu'il y ait eu de décret de panthéonisation. C'est un monument qui est dû au sculpteur Alphonse Camille Terroir, et ce monument se trouve à la croisée du Panthéon. Alors les statues allégoriques représentent exactement l'encyclopédie et la Révolution, qui se tiennent toutes les deux, et les statues qui se trouvent latéralement, c'est la vérité et la force. On peut présumer que la vérité, celle-ci, et la force, une statue masculine. Alors, 2 ans après, le 6 juillet 1915, le Conseil municipal de Paris, donc on est en pleine guerre, le Conseil municipal de Paris demande à l'unanimité la panthéonisation de Rouget de Lisle. Cette demande est approuvée par Raymond Poincaré, mais qui n'a aucun pouvoir à l'époque, puisque à l'époque, c'est uniquement le Parlement qui peut décider. Donc, approuvée par Raymond Poincaré, cette demande donne lieu à l'exhumation de Rouget de Lisle, qui était inhumé à Choisy-le-Roi. Donc, on retire son corps de sa tombe. Et puis, au dernier moment, mais on se dit, mais il n'y a pas le décret du Parlement. Mais en 1915, le Parlement, il avait peut-être d'autres chats à fouetter que de s'occuper de signer un décret de panthéonisation de Rouget de Lisle. Alors que faire de ce corps qu'on avait été chercher à Choisy-le-Roi et qui ne pouvait pas entrer au Panthéon? Ben, on se dit, dans le fond, il était militaire, il a composé un hymne qui a été une marche de guerre originellement, qu'est-ce qu'on en fait? Invalide. Donc voilà Rouget de Lisle qui part en direction des Invalides. On a redemandé plus tard sa panthéonisation, donc... Après la libération, 2 des personnalités citées plus haut firent l'objet de nouvelles démarches sous la 4e République. La panthéonisation de Balzac fut à nouveau demandée en 1949 par le Conseil municipal de Paris aux grandes dames des Balzaciens, pour qui arracher Balzac au Père Lachaise revenait à tout ignorer de l'homme et de l'œuvre, sans que son transfert au Panthéon pût ajouter quoi que ce soit à sa gloire. Donc l'affaire n'eut pas de suite. Et puis en 1957, il y a de nouveau un vœu relatif à Descartes. C'est le Conseil général de la Seine qui demande que le décret de la convention concernant Descartes devienne effectif. Mais ça n'a pas été davantage couronné de succès. Alors la 4e République, je vous le dis quand même, elle a un petit peu panthéonisé, mais assez peu. En 1948, sous la 4e République, on a panthéonisé Jean Perrin, qui était à la fois un physicien et un homme politique. Un autre physicien, Paul Langevin, qui est bien connu. En 1949, on a panthéonisé Félix Séboué, donc qui était à la fois un homme de la France libre, et puis qui représentait, comme on ne disait pas encore à l'époque, la diversité. Victor Schœlcher, journaliste et homme politique, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait rentrer son père en même temps. Et en 1952, Louis Braille. J'ai pas fait de recherche autour de Louis Braille, je ne sais pas comment s'est passée sa demande de panthéonisation. Voilà. Je ne vous ai pas parlé des panthéonisés de la Troisième République. Hein. Il y en a eu quelques-uns dans l'entre-deux-guerres. Bon, il y a eu Jaurès qu'on a vu tout à l'heure en 20... Il y a eu Gambetta, le cœur de Gambetta en 20, Jean Jaurès en 24, et Paul Painlevé qui a été immédiatement panthéonisé après sa mort en 1933. Qui était à la fois un homme politique, mais également un scientifique, un physicien qui s'est beaucoup occupé d'aéronautique. C'est un grand nom dans l'histoire de l'aéronautique française. Alors, on arrive à la 5e République, où là, tout change pour le Panthéon, puisque les procédures sont totalement modifiées, mais je n'ai pas encore réussi, je n'arrive pas à trouver comment ça change et pourquoi ça change. Maintenant, ce n'est plus donc à partir de De Gaulle, 58, ce n'est plus le Parlement qui décide, la panthéonisation devient ce qu'on peut appeler un droit régalien, puisque c'est maintenant le président de la République qui a la main sur les panthéonisations. Mais je n'arrive pas à trouver, j'ai regardé dans les bulletins de loi, je ne trouve pas de loi qui se rapporte à ça. J'ai lu sous la plume de je ne sais plus quel auteur que c'est conformément à la Constitution de 1958. J'ai épluché la Constitution de 1958. Je n'ai rien trouvé qui se rapporte. Ça m'étonnait bien un peu que ça soit dans la Constitution. Je n'ai rien trouvé. Donc, je suis désespérément à la recherche du texte ou de la décision qui fait qu'on passe du Parlement au président de la République et des motifs pour lesquels cela a changé. Donc la décision échappe au pouvoir législatif pour devenir une prérogative du président de la République que les défenseurs de telle ou telle cause doivent absolument convaincre. Ce qui fait que quand des gens veulent panthéoniser, enfin ont l'idée de panthéoniser quelqu'un, ils créent des comités, ils se mettent en rapport avec les descendants et après il faut faire du lobbying auprès du président de la République. Mais en passant par tous les intermédiaires qui peuvent exister entre des citoyens et un président de la République. Et en réalité, j'ai découvert récemment que le pouvoir législatif, il n'est pas totalement absent de ça, parce qu'on m'a demandé, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, de participer à une petite émission de radio, c'est une radio que je ne connaissais pas, qui s'appelle Radio Delta. C'était pour une émission de radio commandée par la Grande Loge de France, et il y avait un autre historien qui est historien, effectivement, Bruno Fulini, mais qui est en même temps est un haut fonctionnaire. Il avait été au cabinet de Richard Ferrand et maintenant il est au cabinet de Yael Braun-Pivet. Et j'ai appris qu'en fait, c'est lui, enfin sauf si on m'a raconté des cracks, c'est lui qui a tout mis en scène pour la panthéonisation de Manouchian. Donc je me dis, c'est peut-être Macron qui a pris la décision que ça serait Manouchian et Méliné qui seraient... Mais le législatif, il y a bien mis sa main également. Alors on a eu une petite discussion parce que la journaliste nous a demandé ce qu'on pensait de ce mode de panthéonisation président de la République, Parlement. Et Bruno Fulini défendait la panthéonisation régalienne du président de la République en disant que ce n'était pas le caprice d'un seul homme, qu'il y avait tout un travail qui était fait par les comités, par la famille, mais il n'en demeure pas moins que c'est un travail de lobbying, que c'est des gens qui ont de l'entre-gens, et qu'au bout du compte, c'est quand même un individu, le président de la République, qui décide. Moi, je trouve que ce n'est pas démocratique, que ce n'est pas cohérent, et je défendais soit le retour au Parlement, mais à dire vrai, moi, j'aimerais plutôt une autre démarche. Il y a eu des démarches qui ont été faites d'ailleurs dans les années 2000. Il y a 2 organismes qui ont lancé une enquête auprès des Français pour savoir quelles personnes ils aimeraient voir panthéonisées. Au début du XXe siècle, le journal Le Petit Parisien avait fait une grande enquête auprès des Français. Alors c'était un jeu, hein, c'était pour aboutir à un jeu. On leur donnait une liste de 500 noms et il fallait que les lecteurs du Parisien décide qui parmi ces 500 noms étaient les 10 Français illustres les plus importants. Et celui qui avait trouvé l'homme ou la femme qui aurait eu le plus de voix était le grand gagnant du jeu. Et après, il y avait 5 gagnants ou 10 gagnants, donc en fonction de l'ordre qu'ils avaient réussi à établir. Mais je me dis, dans le fond, pourquoi on ne lancerait pas tous les 5 ans ou tous les 10 ans des listes, on sait bien qui les gens voudraient voir panthéoniser. On peut faire des listes de dizaines de noms avec tous les gens qui sont en attente de panthéonisation et on demanderait aux Français de voter, pourquoi pas. Bon, c'est un petit peu un bins à organiser, je suis bien d'accord, hein. Mais que ça soit le seul président de la République qui décide, moi ça me défrise, comme on dit, je trouve pas ça bien. Donc, on reprend nos recalés du Panthéon. Donc, en 1968, la panthéonisation de Berlioz fut demandée par Jean Boyer, député de l'Isère, puisque Berlioz était né dans l'Isère, à la Côte-Saint-André, où il a d'ailleurs une statue à la Côte-Saint-André, il a une statue à Grenoble. C'est le musicien le plus statufié de toute la France, il a pas mal de statues. Et qui était par ailleurs, ce Jean Boyer, donc député, était fondateur du festival Berlioz de la Côte-Saint-André. Il parvient à convaincre André Malraux. André Malraux parvient à convaincre Le général de Gaulle, 1968. Le Bins. Je peux vous dire que la panthéonisation de Berlioz, elle n'a pas pesé cher. Puis après, de Gaulle a démissionné après l'échec de son référendum. Et la cause de Berlioz est partie avec le général de Gaulle. Mais elle revient. En février 2000, la ministre de la Culture, Catherine Trottmann, annonça que Berlioz entrerait au Panthéon en 2003. Mais Jacques Chirac jeta finalement son dévolu sur Alexandre Dumas. On aurait pu panthéoniser les deux, hein. Il y a eu des fournées de quatre au Panthéon, donc pourquoi pas? Pourquoi il n'a pris qu'un, Alexandre Dumas, dont les cendres arrivèrent au Panthéon le 30 novembre 2022. Le 23 janvier 2019, année du 150e anniversaire de la mort de Berlioz, Laurent Petit-Gérard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, plaida en vain la cause du musicien auprès du président Macron. Macron n'a pas voulu de Berlioz en 2019. Pourtant, ça lui aurait bien correspondu, je trouve. Bon, il n'en a pas voulu. Donc, mais les Berlioziens que j'ai vus ce matin, donc après la petite cérémonie sur la tombe, enfin du moins les quelques-uns avec qui j'ai parlé de ça, ils ne sont pas du tout d'accord pour qu'on emmène Berlioz au Panthéon. Ils trouvent qu'il est bien mieux au cimetière Montmartre. La tombe qui est là, elle existe depuis 1963, je crois. C'est une tombe nouvelle. Avant, c'était une tombe vraiment différente. Au-dessus de la tombe, il y avait en grandes lettres écrit Berlioz et des lettres partaient des grands rayons de soleil, comme une auréole. Et quand on a refait la tombe en 1963, une grande tombe de marbre noir, assez élégante, avec un grand médaillon, eh bien, le nom de Berlioz avec les lettres est parti sur la tombe des parents Berlioz à la Côte-Saint-André. Voilà. Donc c'est une tombe très moderne maintenant. Donc, en voilà un qui revient. En 2011, Descartes éveille l'intérêt de trois députés divers gauches. Ce serait intéressant d'interroger tous les gens qui se lèvent un bon matin en se disant « Tiens, je vais demander la panthéonisation de Descartes. » Députés divers gauches demandent la panthéonisation de Descartes. Ils demandent non pas le transfert de ses restes qui se trouvent à l'église Saint-Germain-des-Prés, mais de son crâne qui est conservé au Musée de l'Homme et dont l'authenticité est d'ailleurs remise en doute. Je ne sais pas encore pourquoi le crâne de Descartes se trouve au Musée de l'Homme. Bon, l'idée de panthéoniser Diderot fut relancée en 2012 par Jacques Attali, qui aurait alors eu l'oreille du président Hollande. L'opération aurait échoué après que le canard enchaîné eût soulevé la question de l'authenticité des restes du philosophe. Est-ce que c'est vraiment Diderot qui est là-bas ? Et bien que Pascal Monnet, qui était alors administrateur du Panthéon, eût déclaré « Il n'est pas nécessaire que le corps soit déplacé pour que l'on panthéonise un personnage. » On en a eu des exemples. Hein. Alors, reste le cas de Rouget de Lisle, dont le transfert des Invalides au Panthéon a été réclamé vainement en 1988, puis en 1999, par un sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, Henri d'Attilio, et qui n'a débouché sur Orléans. Donc ça, c'est les noms qui avaient déjà surgi. De nouveaux noms sont apparus. En 2008, à l'approche du tricentenaire de la naissance de l'abbé de l'Épée, et brandissant l'exemple de Louis Braille, donc panthéonisé moins ses mains en 1952, l'association des amis de l'abbé de l'Épée, qui se crée spécialement pour demander la panthéonisation de l'abbé de l'Épée, l'association des amis de la paix de l'épée tenta de faire décerner le titre de grand homme au premier, c'est une citation, au premier instituteur gratuit pour les sourds que la constituante avait reconnu comme l'un des citoyens ayant le mieux mérité de l'humanité et de la patrie. Mais sans panthéoniser, hein, mais on lui avait décerné donc ce titre d'homme, de citoyen qui avait le mieux mérité de l'humanité et de la patrie. Les 21-26 juillet 1791. Donc, on fait circuler une pétition, elle est toujours en ligne d'ailleurs, qui s'appelle « Oser l'abbé de l'Épée au Panthéon ». Cette pétition a été lancée le 1er octobre 2021, adressée à Emmanuel Macron, et Marine Le Pen reprit cette idée en 2022. Sur une émission de France Inter, elle est interrogée par Léa Salamé, qui lui demande « Qui feriez-vous entrer au Panthéon ?» Et Marine Le Pen répond « Peut-être l'abbé de l'Épée, qui est le créateur de la langue des signes. Je pense que ça a été un apport considérable, précisément pour ceux qui étaient mis à l'écart de ce qui fait la nature humaine, c'est-à-dire la conversation. Ce serait un beau signal à l'égard des personnes effectivement frappées de handicap, un bon signal aussi pour dire qu'il faut tout faire pour continuer dans cette belle politique de l'inclusion qui, à mon avis, est à mettre à l'honneur de notre pays. Et elle ajoute qu'il y a peut-être 1000 Français qui mériteraient d'entrer au Panthéon, tellement nous avons une multitude de génies et de talents. Ça, c'est France Inter le 19 janvier 2022, mais ça a été repris sur BFM TV où je l'ai trouvé. Alors, la translation des cendres de Molière est demandée en 2002 et rejetée par l'Élysée qui précise que le Panthéon symbolise la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières, et donc que toutes les figures antérieures à cette période, donc les figures antérieures aux Lumières, n'ont pas lieu d'avoir une place au Panthéon. D'ailleurs, d'autres personnalités étaient très réservées. L'essentiel, à leurs yeux, était que les pièces de Molière fussent jouées. Il y a des gens qui disent, comme pour Balzac, qu'est-ce que la panthéonisation peut lui apporter de plus ? Ce qui compte pour lui, c'est qu'on joue ses pièces partout et que ça ne s'arrête jamais. Alors, arrive une autre figure. En 2006, mais on va voir réapparaître Molière encore. Hein. En 2006, l'historien Vincent Duclerc, que vous connaissez peut-être de nom, lance l'idée de panthéoniser Alfred Dreyfus. Il ne supporte pas l'idée que Dreyfus ne soit vu que comme une victime. Pour lui, Dreyfus d'abord a été un militaire exemplaire, a été un patriote exemplaire et surtout a fait preuve d'un courage et d'un stoïcisme absolument extraordinaire pendant les mille et quelques jours qu'il a passé à l'île du Diable derrière ses palissades où il ne voyait personne et où il ne voyait rien. Il a toujours cru en l'injustice, dit Vincent Duclerc, il a toujours cru en l'injustice de son pays, il n'a jamais faibli, il n'a jamais failli, et en ce sens-là, c'est un héros. Ce à quoi d'autres lui répondent, c'est peut-être un héros par son comportement de stoïcisme et de courage dans les épreuves, mais ce n'est pas un destin qu'il s'est choisi, c'est un destin qui lui a été imposé. Et les vrais héros, ce sont les héros qui construisent leur histoire, qui choisissent leur destin. Et bien qu'on puisse considérer qu'il ait eu des traits de comportement héroïques, c'est avant tout une victime. Et Vincent Duclerc répond, mais Zola aussi, et Zola on l'a panthéonisé pour son J'accuse. J'accuse est de 98, on l'a panthéonisé en 1908. Il dit, mais Zola, il a aussi été une victime puisqu'il a été condamné à de la prison et qu'il a dû s'enfuir et s'exiler pour échapper à la prison. Donc ne me dites pas que Dreyfus est une victime parce que Zola a aussi été une victime. Bon, tout ça se discute. Bref, cette affaire de Dreyfus n'a pas abouti. Mais ça a été une campagne très très agitée en 2006, où il y a eu dans beaucoup de journaux, de magazines, sur des émissions de radio, des émissions de télévision, et il paraît que Jacques Chirac, enfin c'est ce que Vincent Duclerc dit dans son livre, il a écrit un livre autour de cette affaire, Dreyfus au cœur de la République, il dit que Jacques Chirac était presque convaincu, et que finalement il a fait machine arrière, entre autres parce que, bon, mais je ne sais pas si ce que dit Vincent Duclerc s'est passé de manière aussi mécanique que ça, pendant qu'il y avait cette campagne autour de la panthéonisation de Dreyfus, il y a d'autres historiens qui ont lancé une autre panthéonisation, celle de l'historien Marc Bloch, qui lui aussi était juif, qui était un grand historien, qui a été résistant et qui est mort dans la résistance. Et qui disait, Marc Bloch a plus de droit à la panthéonisation que Dreyfus. Et il y a eu des titres dans la presse, Marc Bloch contre Dreyfus, ou Dreyfus contre Marc Bloch. Ça a mis une panique pas possible dans le landerneau des historiens. Et Jacques Chirac aurait finalement, qui est, paraît-il, dit Vincent Duclerc, était presque convaincu, finalement à reculer. Donc Dreyfus n'a pas été amené au Panthéon, mais il a eu une grande cérémonie de réparation nationale dans la cour de l'école militaire, là où il avait été dégradé. Donc, et on va retrouver Molière. Vous voyez, je vous ai dit que je suivais un fil chronologique. L'acteur Francis Huster a mis l'idée de panthéoniser Molière en 2019, puis en 2021. Et voici ce qu'il dit. Il y a quelque chose d'intéressant. Je peux vous le dire aussi pour Dreyfus, parce que ce que Vincent Duclerc dit à propos de Dreyfus, voilà, Alfred Dreyfus emmène avec lui, il aurait pu dire, s'il avait été panthéonisé, il aurait emmené avec lui toutes ces personnes qui se retrouvent dans son combat, puis dans sa mémoire, toutes celles qui, comme lui, engagèrent un combat désespéré contre les ténèbres et dont on a perdu la trace. Elles méritent qu'on se souvienne d'elles. En faisant entrer Dreyfus au Panthéon, elles y seront représentées dans la conscience publique qui traverse les âges et les pays. Vous voyez l'idée que quand un homme rentre ou une femme rentre au Panthéon, il n'y rentre pas forcément tout seul, il emmène avec lui tous les gens qui ont partagé le même combat. Manouchian, il a emmené avec lui les 23 de son groupe dont les photos se trouvaient sous le péristyle. Quand on a panthéonisé Maurice Genevoix, on a dit que Maurice Genevoix représentait tous les poilus de la guerre de 14-18. Bon, eh bien là, l'acteur Francis Huster dit « J'ai voulu, au nom de tous ceux, par millions, depuis 4 siècles, dans tous les pays, à travers les continents, qui l'ont aimé et servi par les milliers de mots de ce texte, il parle de son texte à lui, de la lettre de demande de panthéonisation, officiellement ouvrir la page sur laquelle sera inscrite pour lui rendre enfin justice l'entrée de Molière au Panthéon à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, le 15 janvier 2022. Ce qu'il voulait dire, c'est que si on panthéonisait Molière, on panthéoniserait avec lui tous ceux qui ont aimé son œuvre, tous ceux qui ont aimé voir jouer ses pièces. Mais ça n'a pas abouti non plus. Donc voilà le tombeau de Molière qui est au Père Lachaise. Il est impressionnant, hein ? Le 28 janvier 2021, des élus très intéressants, des élus, des syndicalistes et des intellectuels interpellèrent le président de la République, Emmanuel Macron, via l'Humanité, au sujet d'Ambrace Croizat, C-R-O-I-Z-A-T, dont la place, dirent-ils, est au Panthéon en tant que, c'est une citation, chevrille ouvrière et principal bâtisseur de la sécurité sociale. Le 23 mars 2023, la CGT organisa une cérémonie de pré-panthéonisation au Panthéon. Ça, c'est extraordinaire. C'est la seule fois que j'ai vu ça. J'ai tout le texte de cette pré-panthéonisation. Discours de la CGT Culture pour la panthéonisation d'Ambroise Croizat. La CGT, ça m'a beaucoup étonnée. C'est rendu au Panthéon, donc ils ont quand même eu accès au Panthéon. Et pour eux, c'était une cérémonie de pré-panthéonisation pour rappeler tout ce que Ambroise Croizat avait fait pour la classe ouvrière. Alors, vers la fin de cette année 2023, le 6 novembre, à l'initiative de Julien Vermignon, président d'Île-de-France des Jeunes Radicaux, mais c'est un homme, si j'ai bien compris, originaire des Antilles, 76 ou 60 membres, j'ai trouvé les deux chiffres, membres du Parti radical, demandèrent la panthéonisation de Gaston Monnerville, qui était ancien président du Sénat et qui était originaire de la Guyane. Et dans leur lettre ouverte à Emmanuel Macron, ils précisèrent que Monnerville s'était mis au service de la République et des Lumières et que son entrée au Panthéon constituerait la plus belle, la plus républicaine et la plus française des réponses aux défis auxquels nous faisons face. Gérald Larcher, donc le président du Sénat, estima que Gaston Monnerville, qui avait servi la République une et indivisible comme maire, comme député, comme président du Conseil de la République, le nom du Sénat sous la quatrième, puis des Sénats, méritait de rejoindre Victor Schœlcher et Félix Bouet. Donc Victor Schœlcher, l'homme qui a signé le décret d'abolition de l'esclavage, et Félix Bouet, qui était originaire de la Guyane, dont la cérémonie de panthéonisation s'était déroulée sous sa présidence. Et là encore fut lancée une pétition, dont j'ai trouvé le titre un peu bizarre. La pétition est intitulée Gaston au Panthéon. Ça fait un peu la gaffe. Gaston. Et alors, je vous précise, si vous allez, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment quelques années, mais je n'ai plus bien la date en tête, il y a un buste de Gaston Monnerville. Vous voyez, quand vous quittez le Luxembourg, mais je ne sais pas si c'est l'ouest, l'est, le nord, le sud, j'en sais rien, et que vous remontez par les jardins assez minces, qui arrive vers l'observatoire où il y a la statue de Carpeaux. Vous voyez, il y a la statue de Carpeaux, il y a des jardins qui descendent. Eh bien, vous avez un buste de Monnerville qui a été mis à cet endroit-là avec une belle plaque, une belle inscription. Bon, maintenant, j'arrive à quelques hommes dont on demande encore la panthéonisation, puis après, il faut parler des femmes. Donc, pour le moment, il y a un lobbying, pour notamment par une députée Renaissance du Loiret, Caroline Janvier, qui est pour le moment très occupée par la panthéonisation de Léon Blum. Mais il y a aussi un lobbying pour la panthéonisation de Mendès France. Robert Badinter, vous le savez, la panthéonisation a été demandée récemment. Et puis, à la fin de la séance que j'ai faite au Panthéon, l'autre jour, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils voulaient faire panthéoniser leur aïeul, mais ils n'y arriveront jamais, le mathématicien Évariste Galois, qui lui aussi est mort en duel à l'âge de 20 ans, aussi vers la monarchie de Juillet, quelque chose comme ça. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider. Ben non, je ne pouvais pas. Voilà. Alors, mais notamment depuis les années 2000, la question la plus sensible se rapporte au nombre des femmes au Panthéon. Il y en avait deux seulement au début du XXIe siècle. Au tout début, il y avait Sophie Berthelot depuis 1907, quand on l'avait fait entrer avec son mari. Ils sont morts le même jour. Hein. C'est Sophie qui est morte en premier et Marcelin qui est mort en second. Et puis Marie Curie, dont le corps radioactif, enveloppé de plomb, a été introduit dans le caveau 8 en 1995. Puis après, il y a eu Simone Veil, il y a eu Germaine Tillon, il y a eu Geneviève Antonios de Gaulle, il y a eu Joséphine Baker, et puis voilà. Donc, en 2013, le collectif nommé Pour des femmes au Panthéon demanda à François Hollande de rompre le déséquilibre flagrant de la proportion des femmes et des hommes dans notre temple laïque et républicain et publia sur la toile une série de fiches toutes intitulées « Au Panthéon, une telle »,« Au Panthéon, Gisèle Halimi »,« Au Panthéon, Louise Michel »,« Au Panthéon, Olympe de Gouges », etc., etc. Voilà les deux enquêtes dont je vous parlais tout à l'heure, donc deux enquêtes qui datent de 2013. Ces enquêtes ont montré que les Français et les Françaises, indépendamment des féministes, sont sensibles au déficit des femmes panthéonisées. L'une de ces enquêtes a émané du Centre des Monuments Nationaux, qui lança une consultation en ligne sur son site du 2 au 22 septembre 2013. La question posée était, selon vous, qui mériterait d'être prochainement honoré au Panthéon et pourquoi ? Au total, il y eut 30 715 internautes qui ont participé, qui ont donné 1200 noms, dont, vous voyez, ça faisait beaucoup, hein, 1200, c'est, parmi toutes les réponses, on avait 1200 noms différents, dont une majorité de femmes. L'autre enquête a été lancée par Hérodote.not. Il y a eu 4000 réponses relatives à 31 patronymes, dont 14 de femmes. Donc, pas tout à fait la moitié de femmes. Et dans les deux cas, on a plusieurs noms qui reviennent avec insistance. Ceux d'Olympe de Gouges, de Lucie Aubrac, de Simone de Beauvoir, de Louise Michel, de Georges Sand et de Simone Veil. L'heure de vérité sonna en 2015 lorsque François Hollande panthéonisa 4 personnes. Et là, les féministes étaient furieuses, puisqu'en fait, parmi les 4 personnes panthéonisées, il y avait 2 hommes et 2 femmes. Les 2 femmes, c'était Germaine Tillon et Geneviève Antonios de Gaulle, et les 2 hommes, c'était Jean Zay et Pierre Brossolette. Et les féministes avaient espéré que pour essayer de grignoter, de rattraper petit à petit le déséquilibre, il y aurait eu au moins 4 femmes. Et donc là, vraiment, le collectif des femmes pour le Panthéon accusa le coup. Le président de la République n'a pas fait le choix de rééquilibrer le nombre de femmes en nommant Pierre Brossolette et Jean Zay aux côtés de Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Il perpétue le déséquilibre. On ne peut pas dire qu'il perpétue. C'était 2-2, donc là, il y avait la parité. Mais ça ne corrige pas ce qui existe déjà, voilà. Il perpétue le déséquilibre flagrant du nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités inhumées au Panthéon. Le nombre de femmes est porté à 4 pour 73 hommes. Et le comte Berthelot, qui n'est pas panthéonisé en elle-même. Il reste donc beaucoup à faire pour une véritable égalité entre les femmes et les hommes dans l'histoire, comme dans notre quotidien. Donc, après cette date, 3 autres femmes furent conduites sur le chemin de la montagne Sainte-Geneviève. Simone Veil, donc là, pour le coup, le vœu est exaucé, le 1er juillet 2018. Joséphine Baker, le 30 novembre 2021. Et donc, Méline Manouchian, le 21 février 2024. La cause d'autres femmes est vigoureusement défendue, à commencer par celle d'une femme dont personnellement j'avais jamais entendu parler, la Martiniquaise Paulette Nardal, N-A-R-D-A-L, 1896-1985. Et ça, c'est un véritable scandale, parce que Paulette Nardal est l'inspiratrice oubliée de la négritude. Tout le mouvement de la négritude, dont on crédite Léopold Senghor, Aimé Césaire et bien d'autres, en réalité, la vraie figure de départ, il paraît que c'est vraiment Paulette Nardal, dont la panthéonisation est réclamée depuis 2016, date à laquelle le club Sort Optimiste, c'est un club qui regroupe des femmes influentes et qui demande à travailler pour les femmes, donc le club Sort Optimiste de Fort-de-France se prononça au moins pour la position d'une plaque à son nom, mais je ne crois pas qu'elle ait été mise. En 2019 fut créée l'association Paulette Nardal au Panthéon, soutenue par Anne Hidalgo, tandis que le club Sort Optimiste relança sa campagne auprès d'Emmanuel Macron. Alors il y a une autre panthéonisation qui est demandée, celle de l'aviatrice Marie Marvin, Poquelin Molière. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parmi celles dont la panthéonisation est demandée, il y a Gisèle Halimi, donc avec son compagnon Claude Faux. Voilà la tombe d'Ambroise Croizat. Eiffel, on demande aussi la tombe. Je ne vous ai pas dit tous les noms, hein, il y a toute une kyrielle de noms qui sont demandés. On demande aussi la panthéonisation. Ça, c'est au cimetière de Levallois-Perret. Ça, c'est la tombe de l'aviatrice Marie Marvin dans un des cimetières de Nancy. Voilà, Marie Marvin, 1875-1968, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 14-18, pionnière de l'aviation sanitaire. Et là, voilà la tombe d'Évariste Galois, dont des descendants demandent actuellement la panthéonisation. Donc, comité Marie Marvin, mais son action contrecarrée par 2 journalistes, des femmes, est-il précisé, qui mettent en doute la véracité des exploits accomplis par celle que l'on avait surnommée la fiancée du danger. C'est comme, vous savez, la grande exploratrice Alexandra David-Nel. Il y a des gens qui ont dit qu'elle n'avait jamais fait les grands voyages en Inde et tout, que tout ça a été inventé, bref, etc. Alors, enfin, depuis 2021, la panthéonisation de Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet 2020, est demandée avec force. Elle fut même recommandée par Benjamin Stora, bon, que vous connaissez comme historien, en janvier 2021. À l'initiative de Choisir la cause des femmes, une pétition fut lancée par Libération le 18 mai 2021. Elle recueillit environ 35 000 signatures. C'est pas beaucoup quand même. La pétition a été lancée par Libération. Tout le monde ne lit pas Libération non plus, hein. Si la pétition n'a pas été mise sur la toile ou n'a pas... Bon. Alors le 11 octobre, une manifestation fut organisée devant le Panthéon, devant lequel fut déployée une grande banderole portant l'inscription hashtag, bon, le signe hashtag, Gisèle Halimi au Panthéon, tandis que les manifestantes scandaient aux grandes femmes la matrie reconnaissante, et chantaient l'hymne des femmes. Je dois vous dire que pour ma part, l'hymne des femmes me choque beaucoup. Ce n'est pas les paroles qui me choquent. L'hymne des femmes, il est chanté sur l'air de l'hymne des transportés. Vous savez, loin sur l'infini s'étendent, c'est le chant des transportés. Et moi, ça me choque beaucoup que les femmes aient pris cet air-là. Pour moi, cet air, il devrait rester unique, je veux dire. Je comprends d'une certaine manière. Elles assimilent leur sort de personnes constamment discriminées au sort des déportés. Moi, ça me choque quand même. Je trouve que cet air, il devait rester à lui tout seul et que pour lui tout seul. Alors, Emmanuel Macron aurait renoncé à panthéoniser Gisèle Halimi à cause de ces positions trop clivantes, mais je pense que ces positions trop clivantes par rapport à la guerre d'Algérie, pas par rapport à l'avortement. Alors, pour certains partisans de Gisèle Halimi, par exemple Aurélien Taché, choisir Joséphine Becker aurait été un moyen d'occulter le refus de panthéoniser Gisèle Halimi en mettant une figure de la diversité, une figure qui avait fait de la résistance, c'est une femme noire, donc ça pouvait faire passer la pilule de la non-panthéonisation de Gisèle Halimi. Donc le décalage reste immense entre le nombre des hommes, 77 en comptant le père de Victor Schœlcher et le mari de Simone Veil, et celui des femmes, 7 avec la femme de Marcelin Berthelot, et Mélinée Manouchian, je ne sais pas bien, parce qu'elle était dans le groupe des résistants aussi, donc on peut la compter. Je terminais comme ça. N'est-il pas étrange que tant de femmes remarquables soient maintenues hors des murs du temple, alors que des caveaux seraient prêts à recevoir leurs cendres, puisqu'il reste... La dernière fois où j'avais vu le nombre de caveaux qui restaient disponibles, c'est 219. Mais je crois que c'était avant la panthéonisation des Manouchians. Donc il doit en rester 217. Donc on pourrait quand même panthéoniser quelques femmes. J'en ai déjà discuté avec des gens qui pensent qu'il faudrait faire pouf, plusieurs grandes, peut-être pas une fournée de femmes de dizaines et de dizaines, mais plusieurs fournées de femmes. En 1889, on a panthéonisé 4 personnes d'un coup. En 1989, on en a panthéonisé 3. Monge, l'abbé Grégoire et Condorcet. On peut bien quand même faire quelques panthéonisations de femmes par 3 ou par 4. Il suffirait d'en faire... voyons, on est en 24, il a jusqu'en 2027. 3 fournées de 4, on aurait 12 femmes d'un coup. Ça permettrait déjà de rééquilibrer quand même. Voilà, voilà. Bravo. Quand je vois toutes ces belles tombes, Michelet, le buste de Balzac, je me dis, mais est-ce que dans le fond, est-ce que c'est pas mieux de rester dans un beau cimetière, à l'air libre, avec une belle tombe? Donc, je me dis, mais dans le fond, ce qu'il faudrait faire, c'est organiser de visites sur les tombes de ceux qui n'ont pas été panthéonisés, mais dont on a demandé la panthéonisation. On pourrait ajouter une plaque. La patrie leur doit une forme de reconnaissance pour leur œuvre, leur action, etc. Raconter ça à un ami qui me dit, dans le fond, ce à quoi tu penses, c'est des circuits de tombes des illustres comme il y a les maisons des illustres. Ça serait un petit peu ça, une sorte de circuit. Parce que quand les gens se promènent au Père-Lachaise ou à Montmartre ou ailleurs, ils voient bien la tombe de X, de Y, mais seulement, on ne pense jamais à faire le lien entre toutes ces tombes d'illustres qui sont dispersées ici, ici et là. Et je trouve que ça serait bien de les rassembler, tous ces gens qui sont recalés, en attente, et de montrer leur tombe. Un peintre au Panthéon, quelques alors, savants.
Il y a une statue quand même, qui est quand même de Landowski. C'est aux artistes dont la postérité a oublié le nom. Il y a aussi la tombe aux martyrs inconnus. Et en fait, il est dit, vous avez peut-être plus d'informations que moi, probablement, c'est qu'on a dit qu'initialement, le soldat inconnu devait être
oui,
resté au Panthéon.
Oui, oui, on y a pensé à ça, oui, oui,
est-ce que, c'est vrai. C'est pour ça que la panthéonisation de Gambetta et du soldat inconnu enfin, se font en même temps
oui, oui.
Et avec un arrêt devant le Panthéon, etc. Mais ça, c'est pas une légende.
Non, c'est pas une légende. On avait bien, enfin moi, d'après ce que j'ai lu aussi, mais peut-être le même faux bruit qui circule, d'après ce que j'ai lu, effectivement, on avait envisagé que le soldat inconnu aille au Panthéon. Je ne sais plus quels sont les critères qui ont fait que finalement, on a préféré le mettre sur l'Arc de Triomphe. Et c'est bien le jour où on a inauguré la statue, la tombe du soldat inconnu, que le cœur de Gambetta a été emmené au Panthéon dans une urne absolument splendide.
Moi j'aurais une question à poser, qui n'est pas à vous. Vous avez remarqué qu'on avait un jeune homme. Pour avoir assisté à dernière panthéonisation qu'il y a eu. Et moi ça m'intéresserait de lui demander ce que ça a représenté pour lui.
Vous êtes en quelle classe?
En troisième. Bah, pour moi, au début, je connaissais pas vraiment l'histoire de Missak et Méline et Manouchian, mais quand on m'en a parlé, ça m'a plutôt intéressé, donc j'ai voulu aller à cette panthéonisation. Et je trouvais que c'était un très bel hommage, Il y a eu le poème d'Aragon, par exemple, il y a eu une interprétation d'ailleurs de Feu Chatterton. Franchement, pour moi, ça m'a touché.
Il y a une chorale qui a chanté « Ils sont tombés » pour les Arméniens.
La chanson de Charles Aznavour.
Ah, c'est Charles Aznavour, qui était très, très émouvant, ce chant. Cette interprétation.
Je pense que c'est le cœur d'enfant de l'opéra comique.
Parmi les autres élèves qui étaient là, tout le monde a été touché, tout le monde a été... Vous en avez reparlé après ?
Oui, on a reparlé, vu qu'on était avec notre professeur d'histoire,
oui.
On a reparlé en cours. Et eux aussi, ils ont été touchés.
Bien, bien, bien.
Eh ben, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Très intéressant.